48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans ce 81e MAG. Aujourd'hui, donc Nathalie avec Ludo, salut.
Salut Nathalie.
Bonjour, nous accueillons aujourd'hui toute une ribambelle d'organismes qui tournent autour de l'habitat, on va dire, puisqu'en effet, ce jeudi, Amande, la MAIF Lozère organise une conférence sur l'habitat, la construction, la rénovation. C'est une conférence qui sera ouverte à tous à 18h au théâtre Amande, nous vous le rappellerons. Donc aujourd'hui, une bonne partie des organismes qui seront présents jeudi sont avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu quel va être l'objet de cette conférence et nous donner quelques informations déjà. Voilà, l'idée de cette conférence, c'est de sensibiliser le particulier pour que son logement soit moins dépendant vis-à-vis de l'énergie, on va dire, et pour renseigner au mieux l'ensemble des organismes travaillant dans le secteur sera présent donc à cette conférence. Donc nous accueillons Bruno Portal, délégué départemental de la MAIF Lozère. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Nous accueillons également Sylvain Pralon de Lozère Énergie. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, nous accueillons également Gauthier Lacanal d'Habitat et Développement Lozère.
Bonjour.
Ensuite, nous accueillons Héloïse Coste de l'Agence départementale sur le logement de la Lozère.
Voilà, l'ADIL, bonjour.
L'ADIL, voilà.
Ça faisait longtemps, Héloïse.
Oui.
Une habituée, effectivement, du BAG. Ensuite, Sophie Barial de la CAPEB Lozère.
Bonjour.
Bonjour. Donc, Ludo, tu nous traduis CAPEB ?
Alors, c'est les artisans.
C'est merci. Presque ça, Chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment.
Merci. Donc le rôle de Ludo aujourd'hui, normalement, c'était effectivement de traduire tous les sigles. Je crois que c'est pas gagné. Et ensuite, Caroline Entregue, bonjour, du Conseil de l'architecture, urbanisme et environnement, architecte conseil, donc.
Bonjour, c'est le CAUE.
Bonjour, le CAUE, Amande.
Voilà, et on excuse ceux qu'on n'a pas pu inviter parce que le studio est un peu restreint. On est déjà au maximum de nos possibilités. Il y a également la Fédération française du bâtiment de la Lozère qui sera présente, il me semble. D'autres organismes, on en parlera avec Monsieur Portal dans quelques instants.
Et voilà, et bien donc justement, Bruno Portal, délégué départemental de la MAIF, qui organise cette conférence, va nous expliquer un petit peu
et merci,
tout ça.
Et merci de nous accueillir dans vos studios, voilà, pour donc présenter cette conférence qui aura lieu après-demain, donc c'est bientôt. Dans un premier temps, je vais quand même vous expliquer comment est né le projet de faire cette conférence sur l'habitat. La plupart des gens sur Mande me connaissent en tant qu'enseignant, en groupe scolaire Jean Bonigeol à côté, mais je suis depuis quelque temps, donc délégué départemental à la MAIF. Alors, en tant que délégué départemental, j'ai plusieurs missions à assumer auprès de nos sociétaires, à savoir de les accompagner et surtout de faire en sorte qu'ils soient satisfaits, bien sûr, de notre mutuelle. À ce titre, donc, j'ai pensé qu'une information sur le logement venait, au bon moment.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment.
Nous savons qu'actuellement, il y a donc un projet de loi, la loi de programmation pour la croissance verte, qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. Donc la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Madame Ségolène Royal, donc actuellement donc une fervente donc défense.
C'est dur au féminin.
C'est dur.
Elle défend.
Même en tant qu'enseignant. Elle a vraiment l'ambition de faire bouger un petit peu les choses et de notamment réduire donc notre consommation énergétique. Voilà. Et parmi donc les mesures qu'elle propose, il y en a une notamment qui est importante, c'est celle de réduire la consommation énergétique dans le bâtiment. Voilà. Donc cette information que j'ai souhaité donner auprès de nos sociétaires, je ne pouvais pas bien sûr le faire seul. Il a fallu que je sois accompagné par bien sûr les organismes qui sont donc en Lozère qui traitent ce sujet donc au quotidien. Ils ont tous répondu favorablement et je les en remercie d'ailleurs à ce propos. Et puis il s'est avéré par la suite qu'il était important de pouvoir ouvrir cette conférence au grand public. et pas seulement sociétaire de la MAIF. Donc nous attendons quand même, je pense, plusieurs centaines de personnes, à savoir que déjà, il y a plus de 100 sociétaires MAIF qui ont répondu présent hein, à ce jour. Et donc, étant ouvert au public, on peut s'attendre effectivement à avoir, je pense, 200-300 personnes jeudi soir. Voilà.
Donc vous êtes allé voir les acteurs. On voit qu'il y a une vitalité en Lozère de par le nombre d'organismes qui s'occupent du logement, de la rénovation, de l'énergie, des aides dont on peut disposer, des renseignements juridiques qu'on peut avoir. C'est propre à la Lozère, cette vitalité ?
Non, je ne pense pas. Enfin, j'espère pas, du moins. J'espère que ce n'est pas seulement à Lozère qu'on se préoccupe de ce qu'on peut faire dans nos logements pour justement améliorer leur performance et réduire notre facture énergétique, forcément.
Peut-être, par contre, qu'on a peut-être plus de besoins qu'ailleurs en milieu rural, avec souvent des vieilles maisons qui sont mal isolées, etc. Je ne sais pas si oui, certains d'entre vous ont souvent affaire.
C'est vrai que la rénovation à Lozère est importante, puisque nous avons quand même un parc de logements qui est plus ancien que dans des villes qui sont en plein essor, comme Montpellier, par exemple.
Puis des hivers rigoureux, quand même.
Et des hivers rigoureux.
Quand même,
et d'ailleurs, oui, c'est un petit peu ce qui me tient à cœur, c'est que... voilà, on n'est pas à la merci d'un événement climatique important. Mm-hmm. Et même si nos fournisseurs d'énergie sont très compétents en la matière pour assurer, donc, justement, cette énergie auprès de nos logements, on n'est pas... Moi, je me dis qu'il vaut mieux quand même anticiper, être prévoyant. Voilà. Je crois que si on a des logements qui sont bien isolés, eh bien, on pourra assumer quelques jours de coupure d'électricité, hein, et dans de bonnes conditions. Mais il me semble que c'est important.
Très bien. Sophie Barrial, la CAPEB Lozère, veut réagir.
Juste donc pour dire qu'il y a aussi un effet sur la Lozère, c'est que les logements sont aussi grands, et sans doute plus grands qu'ailleurs, ce qui fait que les besoins en énergie sont forcément supérieurs.
Alors on a la chance d'avoir une architecte avec nous qui nous donnera quelques conseils tout à l'heure. On va scinder cette émission en deux parties. Une première partie construction, une seconde rénovation, parce que voilà, c'est deux thèmes importants qui vont être développés lors de cette conférence. Pour cette partie construction, Nathalie, on donne la parole à qui ?
Oui, alors juste, non, moi je voulais juste revenir sur l'événement d'après-demain, sur jeudi soir, et bien expliquer à nos auditeurs que ce qui est intéressant, c'est que quel que soit leur projet, à quelque stade qu'ils en soient, l'intérêt pour eux, c'est de venir et de rencontrer. En fait, on aura tous les organismes qui tournent autour de l'habitat, et le gros avantage, vraiment, c'est le premier avantage, c'est de faire de l'information sur ces organismes-là, quelles sont leurs missions, en quoi est-ce qu'ils peuvent aider les gens, etc. Voilà, donc nous allons commencer par la construction. Ah,
oui, justement, non, je voulais un petit peu revenir sur ce que...
Sur la conférence.
Effectivement, l'intérêt et le but de la conférence, c'est de donner donc une information générale pour la construction et la rénovation, mais surtout de mettre en relation donc le particulier avec les différents organismes qui sont là pour les aider.
C'est ça.
Pour les accompagner dans leur démarche, que ce soit donc bien définir le projet... Et surtout voir quels sont les moyens qu'ils peuvent obtenir pour le mener à terme. Voilà. Et je crois que j'aimerais dire aussi que un projet qui est bien réussi, c'est un projet qui est bien préparé. Voilà, ça c'est important.
Bon, là, il y a eu du boulot en préparation. On ne peut pas dire l'inverse, puisque ces organismes se sont réunis régulièrement depuis plusieurs semaines pour bien avancer sur le sujet. Et donc, on va commencer sur cette première partie qui concerne la construction. On va commencer par parler de la réglementation thermique 2012. En fait, je crois que c'est sorti début 2013, si je ne me trompe pas officiellement.
C'est ça, c'est imposé depuis le 1er janvier 2013,
voilà,
pour toutes les constructions neuves.
Donc cette nouvelle RT 2012, qu'est-ce qu'elle implique ? On va voir peut-être plus précisément avec Sylvain Pralon de Lozère Énergie et avec Caroline Entrec du CAUE, qu'est-ce qu'elle implique pour les gens, déjà ?
Oui, et peut-être nous présenter rapidement ce qu'est Lozère Énergie.
Oui.
Donc bonjour, Sylvain Pralon. Lozère Énergie, c'est une agence locale de l'énergie. C'est-à-dire qu'elle intervient auprès de tous les publics, les particuliers, les collectivités et les professionnels sur toute la question énergétique. Au niveau des particuliers, Lozère Énergie est labellisée, entre guillemets, espace info énergie par l'ADEME. C'est-à-dire qu'elle a un regard neutre, indépendant, et donne des conseils gratuits sur tout ce qui est conseil à maîtrise de l'énergie, dans la construction, dans la rénovation, sur les aides à l'amélioration de l'habitat, et sur tout ce qui est énergie renouvelable.
Donc, voilà. Conseil gratuit pour qui ? Pour les particuliers, pour les particuliers, professionnels ?
Pour les professionnels.
Aussi. Voilà.
Et pour les collectivités. En fait, Lozère Énergie intervient sur tous les publics.
Vous donnez tous des conseils gratuits.
Tout à fait.
Vous êtes tous bénévoles quelque part. Et donc, vous pouvez renseigner justement sur l'ART 2012.
Voilà, l'ART 2012, donc, qui est applicable pour les résidences depuis le 1er janvier 2013. Elle a des exigences comparées aux anciennes RT sur trois niveaux. La première, c'est vraiment le bâti avec son isolation, la prise en compte de l'orientation, ce que faisaient déjà les anciens, ce qu'on appelle aujourd'hui bioclimatisme, mais c'est juste le savoir-faire ancestral, le bon sens. Aujourd'hui, c'est pris en compte. Et ainsi que les déperditions via les ponts thermiques dont on occultait avant les méfaits, on va dire, sur la consommation énergétique. Ça prend aussi en compte le confort d'été, voilà, pour éviter qu'il y ait des bâtiments qui soient surchauffés et du coup d'être obligé de mettre en place la climatisation. Voilà, tout ça indépendamment et avec un troisième point qui est pris en compte, c'est le chauffage et toutes les consommations d'électricité pour l'eau chaude. Voilà, c'est trois points qui sont pris indépendamment les uns des autres, mais qui forment à la fois un tout. Dans l'ART 2012, pour pouvoir déposer un permis de construire, il faut une étude thermique réglementaire qui prend en compte ces points-là, et il ne faut pas dépasser une certaine note. C'est une sorte de permis à points. Si on met un peu moins d'isolation, on perd des points, et à la fin, voilà, il faut pouvoir entrer dans le cadre. Donc l'ART 2012, elle a une exigence aussi au niveau de consommation. On fait en fait des bâtiments basse consommation. Voilà, avant, c'était quelque chose qui n'était pas du tout rentré dans les mœurs. On parlait de BBC, on disait « oulala, c'est pour les écolos », entre guillemets. Non, aujourd'hui, il faut que tout le monde prenne en compte que ça va être la maison d'aujourd'hui et de demain, et que même plus tard, pour la RT 2020 qui doit sortir plus tard, ce sera même des maisons à énergie positive, donc qui produiront plus d'énergie que ce qu'elles n'en consomment. Voilà.
Finalement, ça sera un gain pour le particulier dans la longévité, un gain économique, mais il faut quand même sortir plus d'argent au départ.
Alors, plus d'argent, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus.
Pas tant que ça.
Voilà. Et donc peut-être Sophie Barial pourra répondre là-dessus. Il y a une étude qui a été faite avec la DDT à Lozère sur les surcoûts de l'ART 2012 qui serait de l'ordre de 8 à 10% de plus qu'une maison pour l'ancienne RT. Je ne sais pas si Sophie veut venir un mot.
Juste, je rajouterais qu'il y a aussi une nouvelle philosophie avec cette RT 2012, c'est que au niveau des professionnels, il y a une prise en compte de tous les corps d'État. C'est-à-dire que l'électricien, il va pas juste venir faire son travail d'électricien. Il aura pris en compte avant le travail qu'aura fait le plâtrier plaquiste pour faire en sorte que la maison ait le moins de déperditions possible. Donc c'est une autre philosophie et c'est une coordination nouvelle pour les artisans du bâtiment. Mais ils sont maintenant prêts et nous, on a l'exemple sur la maison des artisans qui respectent la RT 2012 et qui est basse consommation, c'est tout à fait possible. Les artisans sont formés pour ça, ils sont qualifiés, donc vous pouvez leur faire totalement confiance sur le département. Il y a 700 entreprises du bâtiment sur le département, sur tous les corps d'État, donc il faut penser avant tout à solliciter les artisans locaux avant de faire appel à des artisans venus de l'extérieur, par le fait que il y a la proximité. On les connaît, on sait que le bouche à oreille marche beaucoup sur le département, donc c'est facile de trouver un professionnel en qui on peut avoir confiance. Et aussi au niveau du service après-vente, c'est-à-dire que si, par exemple, on fait intervenir le plombier chauffagiste du village, on sait que si on a un souci, il pourra réagir et intervenir très très rapidement en plein hiver et pas nous laisser dans le froid. Nous, sur la maison des artisans, le coût chiffré, donc c'est une maison témoin, 290 mètres carrés, basse consommation, en utilisant que des artisans du département et que des matériaux issus du Languedoc-Roussillon, on arrive à un coût au mètre carré sans compter le terrain, de 1 400 € TTC. Donc, avec voilà, des prestations plutôt haut de gamme. Donc, il ne faut pas se dire que l'ART 2012 coûte beaucoup plus cher, c'est pas vrai. Et puis surtout, sur du moyen terme ou du long terme, c'est très 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 rapidement rentabilisé.
Il y a une étude préalable, vous expliquiez, comme un permis à point, l'administration qui met en place cette étude pour savoir si on peut construire au lieu où on veut construire. Est-ce qu'on accorde facilement les constructions, ou c'est vraiment une étude où on va faire attention, où il y a beaucoup de refus parce que pas en face du soleil, dans une cuvette
Alors, il y a... on va dire peut-être, hélas, encore des difficultés au niveau... Quand on pose le permis de construire, déjà, il faut savoir qu'il faut faire cette étude thermique. On rencontre beaucoup de personnes avec le CAUE, voilà, un organisme pour les personnes qui veulent construire ou des personnes qui étaient dans les démarches et qui se sont fait recaler au niveau de la DDT. On reçoit beaucoup de personnes qui ne savaient pas. On les oriente vers aller vers des professionnels qualifiés. Voilà, on peut trouver l'étude thermique facilement sur Internet pour pas cher et avoir après des choses qui sont mal faites et qui peut faire qu'à la fin, l'attestation de conformité maison RT 2012 ne soit pas accordée.
C'est au particulier de payer cette étude thermique ?
Voilà, c'est au particulier. Aujourd'hui, la DDT n'est pas en mesure de contrôler si l'étude est bien faite. C'est un peu là que le bât blesse. C'est pour ça qu'on oriente vraiment les personnes, qu'on les conseille, qu'on leur dit voilà, venez nous voir, on va bien voir avec vous toutes les étapes, parce que construire, c'est aussi quelque chose, c'est un gros projet dans une vie. On a besoin d'être vraiment cadré, d'être rassuré. Et donc avec le CAUE, on fait régulièrement, quand les personnes nous le demandent, des rendez-vous en commun pour voir tous les aspects administratifs, architecturaux, techniques. Avec tout le, on leur explique toutes les étapes jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la maison soit finie sur la maison RT 2012. Quoi.
Donc même, par exemple, avant d'acheter un terrain, je peux venir vous voir pour que vous puissiez me dire, en voyant le terrain, si ça va être compliqué ou pas d'obtenir l'agrément RT 2012.
Voilà. Après, il ne faut pas se bloquer. On peut construire avec la RT 2012 sur des terrains qui sont mal orientés. Ça demande par contre des prescriptions techniques un peu plus compliquées. Mais il ne faut pas se bloquer et se dire la RT 2012 va être un frein à mon projet. La RT 2012, c'est assez simple. Nous, on est là pour accompagner les particuliers. Voilà, il n'y a pas de recette toute prête. On ne va pas mettre du photovoltaïque. On ne va pas forcément mettre du solaire thermique. On ne va pas forcément ouvrir qu'au sud alors qu'on a une belle vue côté est. Voilà, c'est un projet qui doit être vu dans sa globalité. Ce n'est pas qu'une question technique, c'est une question de conception, tout simplement.
D'accord. Caroline Entrec, vous parliez de l'orientation. Alors justement, comment bien orienter sa maison ?
Alors l'idée de l'ART 2012, c'est de profiter au maximum des apports solaires. Donc on va prioriser en fait les ouvertures au côté sud, puisqu'en fait une vitre, le soleil tape dedans, on a un radiateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut en profiter au maximum tout en se protégeant, puisque du coup avec l'ART 2012, on est plus isolé. Donc on crée un petit peu une doudoune, et il peut arriver quand on conçoit mal le bâtiment, on prenne mal en compte cet apport solaire l'été, et on se retrouve avec des surchauffes trop importantes. Donc voilà, se protéger du vent au nord, s'ouvrir au sud au soleil, se protéger aussi du soleil côté nord-ouest, qui est le coucher du soleil le soir, et là ça tape vraiment à l'intérieur, donc là il faut bien se protéger aussi des apports solaires l'été. Et voilà, ensuite, on va privilégier les ouvertures, forcément, à l'endroit où on a une belle vue. Voilà.
Il faut vraiment trouver le bon calibrage également des moyens de chauffage.
Voilà, la pathologie qu'on voit le plus souvent avec l'Ozer Énergie quand on reçoit des particuliers, c'est qu'ils ont tendance à utiliser un moyen de chauffage trop important par rapport à la maison. Vu qu'on a une maison plus isolée, le moyen de chauffage est quasiment... il peut arriver à être quasiment nul. On va juste utiliser ce qu'on appelle un chauffage d'appoint. On n'est pas obligé, voilà, d'utiliser un gros système de chauffage comme on pourra le retrouver en rénovation, où là, le moyen de chauffage a un fort impact sur la consommation. Vu que la maison RT 2012 est bien isolée, bien orientée, on a moins besoin de chauffage, pardon. Donc du coup, on peut se permettre voilà, d'avoir juste un chauffage d'appoint.
On estime la consommation à 400-500 € par an de chauffage, quand aujourd'hui, ouais, une maison pour l'ancienne réglementation thermique ou un peu avant, même si elle est globalement plutôt bien isolée, on va on va plutôt atteindre presque 1 000 euros. Quoi.
Plutôt le double en général. Voilà. Donc il y aura un léger surcoût effectivement à la construction pour bien prendre en compte tout ça. Mais en revanche, du coup, avec de telles différences sur une facture de chauffage à l'année, vous estimez qu'il faut combien de temps à peu près pour récupérer la différence ? Il ne faut même pas 10 ans du coup ?
Oui, je pense.
Quels sont les moyens de chauffage actuellement qui sont privilégiés par les gens qui construisent, vous qui les voyez passer ?
Alors on voit beaucoup de pompes à chaleur. Donc ça, il faut aussi...
Ça, c'est plus dans les 10 000 euros d'investissement au départ.
Oui, 10 000 euros.
Voilà.
Oui,
c'est ça. Donc 15 000 euros, oui, de pompe à chaleur. C'est ce qui n'est pas le plus cher. Par contre, il faut faire attention, puisqu'en Lozère, on n'a pas forcément la pompe à chaleur. Souvent, c'est réversible. Ça fait et le chauffage et la climatisation. Donc en Lozère, si c'est au nord Lozère, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas intérêt à utiliser une pompe à chaleur réversible. Et ensuite, il faut faire attention parce que certaines pompes à chaleur ne sont pas très résistantes au froid. Voilà.
Oui, j'avais entendu dire ça aussi un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, plutôt, du coup ?
Juste une précision pour avoir installé chez moi une pompe à chaleur. Amende, il s'avère qu'elle soit réversible ou pas, peu importe. Moi, je n'ai jamais utilisé la climatisation dans la mesure où le logement est bien isolé.
C'est oui, c'est ça aussi, toujours pareil. Ouais. Ouais.
C'est ce qu'il faut faire. L'usage, de toute façon, le bon usage, la bonne régulation, c'est le premier facteur d'économie d'énergie.
C'est
de
ça.
Toute façon.
C'est la moins chère, c'est celle qu'on n'a pas consommée. Hein.
Exactement. Après, à Lozère, c'est vrai qu'on a plus facilement à disposition du bois ou des granulés de bois. Donc voilà, les gens privilégient ça au départ.
Ouais.
Après, les calculs thermiques font que... au-delà de 120 mètres carrés, le calcul oblige à avoir, on va dire, un système de chauffage plus conventionnel, style chaudière, enfin voilà, pas avec un vrai réseau. Alors que dans les fêtes, un poêle à bois, bon, qu'on ne peut pas réguler, mais ou alors un poêle à granuler, que lui on peut réguler, suffit à chauffer ses maisons. Surisolé, on va dire.
La maison des artisans, elle est chauffée comment ?
La maison des artisans est chauffée à l'électricité.
D'accord.
Voilà. Donc, comme quoi, et avec très peu de consommation. Donc, c'est vraiment pas une énergie à complètement écarter, sachant qu'en termes de coût à l'investissement au départ, ça peut... C'est assez limité. Des fois, il faut pas se dire je mets 30 000 euros dans mon chauffage et je suis assuré d'eux. Non. Effectivement, des fois, on peut, en fonction des conseils qu'on trouvera auprès de Lozère Énergie, se rendre compte qu'on peut trouver un système de chauffage qui coûte pas très cher. Et étant donné que la maison est bien isolée, comme on vient de dire, on n'aura pas forcément des besoins d'avoir des chauffages de fou, quoi.
Est-ce qu'on peut bénéficier d'aide quand on construit Héloïse Coste de l'Adil ?
Alors, on va pas trop en dire parce qu'il faut aussi que les gens viennent jeudi à la conférence. Mais au niveau de la construction, comme on l'a rappelé depuis un moment maintenant, il y a l'obligation de respecter la RT 2012. Et donc, par principe, à partir du moment où les choses deviennent obligatoires, ben, il y a... plus ou très peu d'aide incitative. Donc la seule aide, entre guillemets, qui existe pour des projets de construction neuve consiste dans le prêt à taux zéro, le PTZ, qui est un prêt sans intérêt distribué par les établissements bancaires, les banques, pour les primo-accédants, donc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas propriétaires voilà, de la résidence principale, sous condition de ressources. Donc au niveau des conditions de ressources, bonne nouvelle puisque les plafonds viennent d'être relevés. Donc voilà, donc c'est à souligner. Donc plus de monde peut profiter de ce prêt à taux zéro.
Qui peut aller jusqu'à combien en montant déjà ?
Alors en fait, le montant, c'est en pourcentage du montant de l'opération. Donc c'est 18% du coût de l'opération, la construction plus terrain. Dans la limite d'un autre plafond, mais après, bon, c'est vraiment dans les détails. Mais l'idée à retenir, c'est que il n'y a pas d'aide directe, c'est pas une subvention, mais c'est une partie du prêt qu'on sollicite qui est à taux zéro. Donc c'est toujours mieux d'avoir à 0% que de l'avoir à 3%. C'est 18% donc du prêt qui est à taux zéro et qui en plus souvent est accompagné de ce qu'on appelle un différé de remboursement. Donc on le rembourse plus tard, ce qui permet...
C'est intéressant.
Oui, tout à fait. Puisque de toute façon, il vaut mieux rembourser 15 000 euros dans 15 ans qu'aujourd'hui. C'est une subvention, mais déguisée, entre guillemets.
Ouais. On peut bénéficier de crédits d'impôt également sur certains matériels, comme dans la rénovation ou pas ?
C'est fini.
C'est fini, ça.
Effectivement, on pouvait, à l'époque de la création du crédit d'impôt en 2005, on pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt dans le neuf pour certains équipements, notamment tout ce qui était énergie renouvelable. Depuis la mise en service, entre guillemets, de la RT 2012, il n'y a plus de crédit d'impôt dans le neuf.
Bien. Donc un prêt à taux zéro.
Voilà.
C'est juste bien, petite question pour préciser, Héloïse. Tu parles de primo-accédant. Celui qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale, mais qui est soit propriétaire foncier, soit propriétaire d'un appartement dans le sud, il peut y prétendre ou pas ?
Oui, on parle vraiment de primo-accession pour la résidence principale. Donc il faut pas, même pour être très précis, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les deux dernières années.
D'accord, merci.
D'accord.
C'est une précision importante puisque voilà, les personnes qui ont construit récemment sont également concernées par la conférence puisque justement leur logement est éligible à ces aides au bout de 2 ans.
Là, ah, oui. Ah, là, on oui. était non. dans le neuf.
Alors,
ouais. perdu.
Oui, oui, non,
mais non. Le sujet est complexe. Justement.
Le prêt à taux zéro, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui seraient locataires ou occupants à titre gratuit et qui envisagent de construire ou d'acheter dans le neuf. Par contre, les personnes qui ont effectivement construit récemment, à partir du moment où leur logement aura plus de 2 ans, donc effectivement, c'est pratiquement neuf, mais ça l'est plus, c'est déjà d'occasion, à ce moment-là, on peut être éligible à certains dispositifs d'aide où la condition d'ancienneté du logement est effectivement seulement de 2 ans.
Quelqu'un a quelque chose à rajouter pour la construction dans le neuf ou on fait une petite pause musicale avant de passer à la rénovation ? Allez, une petite pause musicale, si, Gauthier, non, c'est bon. Allez, on va écouter le groupe de Brooklyn Hospitality avec Friends of Friends.
Street in old New York, I'd rather be home by
48 FM Le Mag.
Bonjour, rebonjour à tous, pardon. Donc, re-bienvenue dans la 81e émission du MAG, où nous sommes très très serrés dans le studio avec une multitude d'organismes qui tournent autour de l'habitat, de la construction, de la rénovation. Donc, la thématique, je le rappelle, c'est parler un petit peu de la conférence qui aura lieu ce jeudi soir à 18h au Théâtre de Mende. Donc, conférence qui tourne autour de l'habitat, construction, rénovation, organisée par la MAIF, Bruno Portal, délégué départemental. Voilà. Donc, la première partie de notre émission a tourné autour de la construction. Donc, on a expliqué un petit peu qu'est-ce qu'était cette nouvelle réglementation thermique 2012. Donner quelques conseils et quelques informations sur les aides. Et pour cette seconde partie, nous allons nous concentrer sur la rénovation. Donc, vous avez un projet de rénovation. Cette conférence est faite pour vous. Et voilà, on va commencer peut-être avec Habitat et Développement Lozère au sujet de la rénovation, qui va nous parler un peu du programme Habiter Mieux.
Bonjour, donc effectivement, depuis bientôt 3 ans maintenant, le programme Habiter Mieux concerne tout le département de la Lozère. Mmh. Donc en fait, il cible les propriétaires de résidences principales à faible revenu. Mmh. Ça, c'est la première entrée. Ça concerne, donc maintenant on est sur de la rénovation, effectivement, des logements de plus de 15 ans. Et il vise à aider des ménages en situation de précarité énergétique et qui envisagent donc d'envisager des travaux de rénovation thermique. Et la petite spécificité de ce programme, c'est qu'avec les travaux envisagés, il faut atteindre un gain énergétique de 25%.
On ne se rend pas bien compte, 25%, c'est beaucoup.
C'est à la fois peu et beaucoup. Ça sous-entend de faire souvent plusieurs travaux dans une habitation. Souvent, les gens viennent nous voir et nous indiquent vouloir changer leurs fenêtres. Mmh. Bon, mais ça, on sait d'ores et déjà que ça ne suffira pas. Il faudra éventuellement regarder l'isolation des combles, des murs. Pourquoi pas revoir une partie du système de chauffage. Enfin, tout ça est à voir. Ce qui est important, c'est que les gens nous précisent le projet qu'ils ont et après, on affinera avec eux si c'est suffisant ou pas.
Donc, les gens viennent vous voir gratuitement, viennent vous demander des conseils. C'est bien ça, le rôle d'Habitat et Développement Lozère ?
Alors, tout à fait. Sachant que depuis 2 ans maintenant, le programme Habiter Mieux, financé par l'État et le Conseil général, permet désormais aux particuliers d'être accompagnés gratuitement. Et ça, grâce à l'implication du Conseil général, qui a désigné notre association pour pouvoir accompagner gratuitement les différents porteurs de projets. Donc effectivement, les gens peuvent nous contacter, soit dans nos locaux à Mende, soit par téléphone, soit au cours des différents, soit venir nous rencontrer dans les différentes permanences que nous tenons sur l'ensemble du territoire. Après, les gens contactent également l'ensemble des partenaires qui sont autour de la table et chacun, en fonction des situations, propose à ces personnes-là de venir nous voir ou pas pour après constituer le dossier administratif qui leur permettra de bénéficier de certaines aides.
Il faut faire un bouquet de travaux pour bénéficier de ces aides ou pas ? Ou c'est pas obligatoire ?
C'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas. Généralement, le projet de travaux qui permet à lui seul d'obtenir le gain énergétique de 25%, c'est le remplacement d'une très vieille chaudière. Là, généralement, on part de bien bas et quel que soit le niveau d'isolation du logement, ça peut passer. Mais bon, nous, et comme tous autour de la table, l'idée, c'est d'essayer de convaincre les gens d'engager un projet un peu plus global sur l'ensemble de l'habitation, parce que même si le particulier met une chaudière de compétition, entre guillemets, mais que les murs et surtout les combles ne sont pas isolés, ça ne servira pas à grand-chose. Mmh.
Sophie Barrial.
Et du coup, tu te déplaces chez les habitations des gens pour te rendre compte de l'ampleur des dégâts et de ce qu'il faut privilégier ?
Alors voilà, tout à fait. C'est un peu notre rôle de base. Donc une fois sur site, on essaie de voir ce qui était prévu et on essaie de voir ce qui pourrait être rajouté au projet initial. Et c'est surtout au moment de cette visite qu'on va engager les relevés qui vont nous permettre d'évaluer la consommation énergétique des logements. Et surtout après, au bureau, via un logiciel qui existe aujourd'hui, d'évaluer ce que deviendra cette consommation énergétique à l'issue des travaux projetés. Et si on a une différence entre les deux consommations de 25%, à ce moment-là, on peut continuer et poursuivre la constitution du dossier.
Sophie me pique mes questions, ça vient de devenir animatrice à 48 FM. Voilà, donc concrètement, on vient vous voir, vous allez chez le particulier.
Tout à fait.
Les travaux, eh bien, correspondent aux attentes. Donc là, vous envoyez le dossier. Ça prend combien de temps un peu tout ça ?
C'est très variable. Je vous cache pas qu'avec le succès du programme depuis le début de l'année, les enveloppes financières de l'État ont très rapidement été consommées. Donc c'est vrai que depuis quelques semaines, on fait un peu patienter les gens. Bon, ce matin, on avait une réunion à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui est le principal financeur du programme. Et a priori, on devrait obtenir quelques crédits complémentaires pour pouvoir constituer de nouveaux dossiers d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, voilà, les délais, tout dépend s'il faut récupérer des devis complémentaires par rapport au projet initial. Tout dépend aussi, parce que bon, on intervient aussi sur l'ensemble du département. Donc, on est une petite équipe, etc. Donc, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais bon, il faut rassurer les gens, surtout ceux qui nous disent « Oh non, non, moi, je veux pas me lancer là-dedans, il y a trop de paperasse, c'est trop compliqué, etc. » Ils nous contactent, on prend le relais et on les accompagnera du début jusqu'à la fin de leur projet. Aussi bien administrativement que sur le projet de travaux pour lequel ils nous ont contactés au départ.
Les aides correspondent à peu près à combien du montant des travaux ?
Alors, selon les ressources des particuliers, ça varie de 35 à 50% du montant hors taxe des travaux. Ceci est plafonné quand même à 20 000 euros hors taxe de travaux. Donc ça veut dire que sur ce montant-là, les gens pourraient avoir entre 7 000 et 10 000 euros d'aide, plus les primes complémentaires apportées par le Conseil général, 500 euros par projet, et de certaines collectivités qui ont décidé d'abonder les aides de l'État sur leur territoire.
Voilà, comme par exemple
La communauté de communes du Val-d'Aunès, qui rajoute 500 euros à tout projet, comme la communauté de communes de Châteauneuf, de Saint-Chély, de La Cano, enfin...
Le conseil régional
n'intervient pas sur ce programme-là.
D'accord, ok.
Pour le moment, en tout cas.
Mais sur d'autres mesures. Et puis, il y a un programme en cours, je crois, avec la communauté de communes de Lozère.
Alors voilà, tout à fait. La collectivité nous a confié une étude pour évaluer le besoin en matière de réhabilitation, entre autres, sur son territoire. Et du coup, notre association y travaille pour, pourquoi pas, mettre en place, peut-être dès 2015, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc là, on est en train de faire un travail de terrain. On recense un peu ce qu'on voit. On va le confronter avec les données statistiques et autres dont on dispose. Et puis après, avec les élus, on essaiera de définir les enjeux et de voir si ce programme est le plus approprié pour l'année à venir.
Voilà, vous répondez également donc aux demandes aux sollicitations des collectivités.
Tout à fait. Donc en matière d'habitat avec la communauté de communes et également sur le volet urbanisme dans certaines situations.
D'accord. Sophie Barial, oui.
Juste par rapport à la région, il y a une chose qui existe, c'est le prêt Rénov LR qui est en fait un prêt à taux bonifié.
Voilà. Donc pour le public non éligible au programme Habiter Mieux. Parce que quand c'est le cas, c'est pas cumulable. Après, je crois que la région, c'est vrai quand même si c'est un peu à part Habiter Mieux, participe sur des projets de systèmes de chauffage bois. Ou...
Mais il y a un appel à projet sur l'éco-construction avec la région.
Ah, moi, je connais pas assez. Là, je voudrais pas dire de bêtises, donc je sais pas.
Je crois que c'est sur les bâtiments collectifs.
Bâtiments collectifs, uniquement? D'accord.
C'est ça. Et Louise Coste, sur les aides, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, j'en profite parce qu'en fait, on voit bien que ce qui se pose ici, c'est la question de la multiplicité des dispositifs d'aide. Effectivement, il y a plein d'aides qui existent, des aides différentes, des subventions, des programmes, des opérations, des prêts, des crédits d'impôt, etc. Et c'est vrai que c'est difficile pour le particulier de savoir s'il est éligible. On voit que déjà entre nous, c'est difficile. Donc, pour le particulier, ça l'est. C'est difficile de savoir si on est éligible, à quelles conditions. Si on est éligible à plusieurs dispositifs, lequel est le plus intéressant? Est-ce qu'on peut cumuler ces dispositifs? Donc c'est pour ça, effectivement, que la deal est là. Puisque, effectivement, on connaît pratiquement tous les dispositifs, je dis pratiquement parce qu'on n'est pas à l'abri d'en oublier un nouveau, mais on connaît les dispositifs et on connaît spécifiquement les règles de cumul de ces dispositifs et les conditions d'accès. Donc nous, on donne que de l'information, on est vraiment la porte d'entrée pour connaître les aides auxquelles on peut prétendre et après réorienter vers le ou les bons interlocuteurs pour pouvoir vraiment monter les dossiers, avoir les visites sur place, monter les dossiers et obtenir les aides, les subventions, les prêts, les crédits d'impôt, etc.
Voilà, on vient vous voir, vous envoyez les personnes vers Habitat et Développement ou Lozère Énergie, qui envoie vers le CIE, qui envoie vers la CAPEB, et on a sa maison construite ou rénovée. C'est parfait, ça. Le crédit d'impôt, on y a droit, là, quand même, pour la rénovation.
Ah, le crédit d'impôt, on y a droit pour la rénovation, puisque le crédit d'impôt, la condition d'ancienneté, c'est 2 ans. Donc, dans les projets de rénovation, il n'y a pas de souci. Crédit d'impôt développement durable qui se transforme, il est en pleine mutation. Il devient le crédit d'impôt transition énergétique, CITE. Et au-delà du, du changement de nom, ses conditions d'accès évoluent, puisqu'en fait, son taux évolue. À partir du depuis le 1er septembre 2014, le taux passe à 30% du montant des travaux.
À la place de combien ?
On était à 25% et 15% dans certains cas. Donc c'est bien.
À la date des factures ou à la date de...
À la date des factures.
D'accord.
Ça t'intéresse peut-être,
Louis. Oui, c'est pour ça.
Complètement. Là, il est grillé,
on en
là.
Discute après, si tu veux.
Je viens de gagner 5%, c'est très bien.
Voilà. Et en plus, il y avait une obligation de faire ce qu'on appelle un bouquet de travaux, sauf pour les ménages modestes. Mais la règle, c'était de faire un bouquet de travaux, donc au moins 2 actions de travaux. Et cette obligation est supprimée désormais dès la première action de travaux. On a droit à ce crédit d'impôt. Je fais une petite réserve quand même, c'est mon côté prudente et juriste, sur le fait que les modalités de ce nouveau crédit d'impôt seront définies dans la loi de finances pour 2015, qui est actuellement effectivement en discussion, qui sera voté et publié à la fin de l'année, en 30 ou 31 décembre. Mais on nous a annoncé un effet rétroactif au 1er septembre, donc on a toutes les raisons de le croire. Mais effectivement, on n'a pas encore le texte.
Le prêt à taux zéro également possible pour ces travaux.
Oui, un prêt à taux zéro possible, qui n'est pas le même que celui dont j'ai parlé pour la construction. Là, pour la rénovation, il s'appelle éco-prêt à taux zéro ou éco-PTZ. Il n'est pas soumis à des plafonds de ressources. Donc, quels que soient les revenus des propriétaires, ils peuvent bénéficier d'un éco-prêt. La condition, c'est de faire, là, par contre, un bouquet de travaux. Donc, au moins 2 actions de travaux parmi une liste de 6 pour avoir droit à un éco-prêt de 20 000 euros qu'on rembourse sur 10 ans. Et si on est encore plus ambitieux et qu'on fait un bouquet de 3 actions de travaux, à ce moment-là, on peut avoir 30 000 euros qu'on rembourse sur 15 ans. Et ça concerne les propriétaires occupants, mais aussi les propriétaires bailleurs. Et par contre, là, il y a une condition d'ancienneté du logement. Il doit dater d'avant 1990.
Voilà, ça, c'est intéressant parce que pour les gens qui rénovent, qui ne sont pas obligatoirement au courant, ils peuvent bénéficier du programme Habiter Mieux, du crédit d'impôt, du prêt à taux zéro. Ouais, c'est vraiment quelque chose à connaître, à savoir.
Tout à fait.
Finalement, c'est la rénovation qui est la plus aidée.
C'est la rénovation qui est la plus aidée dans la mesure où c'est pas obligatoire. Donc effectivement, on est encore dans de l'incitatif.
Oui.
Donc tant que c'est incitatif, il y a des dispositifs d'aide qui sont importants. L'idée, effectivement, on en a parlé juste à l'ouverture de cette émission, c'est de réduire fortement les consommations d'énergie dans le secteur du logement, qui est le plus gros consommateur d'énergie encore en France. Et c'est pas qu'avec la RT 2012 qu'on va y arriver, parce que par rapport au parc de logements existants, la part des logements neufs est quand même réduite. Donc il faut jouer sur le parc existant, il faut absolument lui faire réduire ses consommations. On n'en est pas encore dans quelque chose d'obligatoire, on y viendra peut-être, ça commence peut-être à s'ouvrir avec le projet de loi sur la transition énergétique. Pour l'instant, on est encore dans de l'incitatif et il y a vraiment des moyens importants qui sont mis par l'État et les collectivités pour inciter les propriétaires à faire des travaux.
Donc si vous avez un logement plutôt ancien, c'est plutôt le moment de se poser la question de la rénovation. Et pour ça, donc, vous pouvez avoir des conseils sur les aides et autres subventions auprès de la DIL, bien entendu auprès de Habitat et Développement Lozère également. Et si vous souhaitez des conseils en énergie, donc, vous irez voir Sylvain Pralon de Lozère Énergie. Et alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter à ces gens qui viennent vous voir sur un projet de rénovation ?
Mais déjà, on va se poser autour d'une table tranquillement et on va bien voir toutes les étapes pareil, qu'il y a à voir pour essayer d'améliorer au mieux le bâtiment. Là, on n'est pas sur la construction où on peut modéliser quelque chose, on est obligé de faire avec quelque chose qui existe. Donc il faut revoir comment les anciens, pour les très vieilles maisons, ont implanté la maison sur le terrain.
quels matériaux ils ont pris pour la construction. Et en fonction, on va s'adapter. On va dire, on va isoler cette partie, en a vraiment besoin. Vous avez fait une partie d'isolation, c'est très bien. On complète. On n'est pas obligé. On va regarder le système de chauffage. Voilà, on va reprendre point par point les différents éléments pour voir ce qui est logique aussi de faire. Il faut être raisonnable aussi dans la rénovation. Ça n'a rien d'une maison, d'une vieille ferme en granit sur la Margeride, de dire on va isoler par l'extérieur. Ça n'a,
c'est trop dommage.
Je confirme. Ça n'a aucun intérêt.
Donc, voilà, c'est le CAUE qui intervient.
On va essayer de voir vraiment quels points sont les plus logiques. Et on va essayer surtout de combattre les idées reçues. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais moi, j'ai isolé, c'est bon, j'ai isolé. Ouais, il y a 20 ans et j'ai mis, ou 30 ans et j'ai mis 10 cm de haine de verre. Aujourd'hui, ça représente presque plus rien. Voilà, ce genre de choses où j'ai un mur en pierre, qui fait pas plus de 50 cm. Mais ça suffit. J'ai pas besoin d'isoler, par exemple. Voilà.
Oui.
Donc, il y a déjà convaincre les gens à ce niveau-là, sur beaucoup d'idées reçues qu'on a sur la construction. Essayer d'aller avec eux vers beaucoup moins de dépenses au niveau de leur facture énergétique.
Et si je peux me permettre, effectivement, donc nous, à la DIL, on donne les conseils sur les aides auxquelles on peut prétendre, mais souvent, les propriétaires n'ont pas vraiment d'idée précise du choix de l'isolant qu'ils vont utiliser. Il y a bien sûr effectivement les artisans qui vont les conseiller, mais des fois, c'est bien de savoir un petit peu ce qu'on va demander à l'artisan. Donc le rôle de Lozère Énergie est vraiment là pour réfléchir avec le propriétaire à son projet et pouvoir après faire les bons travaux et les plus économiques.
Voilà, par exemple sur l'isolation, notamment sous les toits, voilà, on va essayer de voir avec eux aussi quelle utilisation ils vont en faire. Si c'est un grenier, si c'est des chambres, on va peut-être pas privilégier, enfin, du moins leur conseiller le même type d'isolant. Mmh.
Voilà, si c'est pour faire sécher les saucissons, faut peut-être pas trop isoler.
Justement, les conseils astuces de notre architecte qui est ici présente, Caroline Entraigue. En rénovation, finalement, il n'y a pas de recette toute prête.
Non, il n'y a pas de recette toute prête. Ça dépend, comme l'a dit Sylvain, ça dépend de la manière dont on utilise le bâtiment. Ça dépend de la manière dont il a été orienté. Et il ne faut pas se poser la question de l'isolation que pour l'isolation. Il faut se poser la question globale. Voilà. Je ne vais pas isoler mon grenier parce que je vais isoler mon grenier. Il faut se poser la question aussi, pourquoi j'isole mon grenier? Est-ce que je dois refaire le toit? Est-ce que je dois refaire ce qu'on appelle le voligeage? Donc dans ce cas-là, peut-être que je peux réfléchir à mon isolation autrement. Voilà, il faut... Dans la réhabilitation, on ne peut pas être sur des systématismes comme dans le neuf. On ne peut pas dire, voilà, il faut tout isoler, étanchéité à l'air. Non, c'est tout à fait notre logique. Il faut réfléchir à la ventilation naturelle. On a aussi sur le bâtiment ancien la question de la condensation, de l'hydrométrie. C'est vrai qu'on a des bâtiments anciens, on a des parois qu'on appelle respirantes. C'est-à-dire que, voilà... des murs en pierre vont laisser passer la vapeur d'eau. On peut pas venir avec du polystyrène et hop, bloquer tout ça. Et dans ce cas-là, on engendre des désordres sur tout le bâtiment. Voilà. Oui. Donc il faut se poser la question dans la globalité. Et c'est du cas par cas.
Voilà. Et il faut penser isolation aussi à chaque travaux, finalement.
Voilà, la question de l'isolation, elle doit se poser, par exemple, quand on refait une cuisine. Tel jour, je veux refaire ma cuisine. Donc je vais déposer les anciens meubles. Et si j'en repose de nouveau... le jour où je voudrais isoler, j'aurai la cuisine qui va me poser problème. Donc, on va pas refaire la cuisine parce qu'on refait l'isolation.
Oui.
Donc, quand on refait sa cuisine, on réfléchit. Est-ce que ça vaut pas le coup d'isoler ce mur-là? Voilà.
C'est vrai qu'on se pose pas nécessairement la question à chaque fois et effectivement.
Voilà, je refais une tapisserie, on se pose la question, est-ce que j'en profite pas pour faire un doublage avec du placo? Dès qu'on parle de la rénovation, il faut voir la chose dans sa globalité. Et donc, nous, on est là pour ça.
Pour conseiller. Voilà.
Et j'ajouterai donc la rénovation et également la construction. Donc, on demande à ce que le logement soit bien isolé. Mais c'est dans le titre de la conférence. Il faut également avoir des maisons saines.
Oui.
Et je crois que ça, c'est important. Des problèmes d'humidité, des problèmes de ventilation. Hein. Donc, rendre donc justement votre maison saine. Et il est nettement plus agréable d'avoir un logement sain pour bien l'apprécier à sa juste valeur. Hein.
Et pour ça, et pour avoir un logement sain, justement, et bien ventilé et bien isolé, on peut faire appel à nos artisans lozériens. Et là, je m'adresse à la CAPEB, qui va peut-être nous parler un petit peu, justement, dans le cadre de la rénovation, de ces professionnels RGE. Donc, Ludo, RGE.
Qu'est-ce que ça veut dire, Sophie, RGE?
Bravo Ludo, c'est t'es pas au point, mais c'est pas grave. Reconnu garant de l'environnement.
Ah, c'est écrit en plus.
Oh là là.
Donc c'est un sigle dont on entend parler en ce moment. Toutes les aides dont on vient de parler, ou en tout cas la plupart, les aides publiques, sont conditionnées et ou vont être conditionnées par le fait que les travaux sont réalisés par un professionnel RGE, reconnu garant de l'environnement. La spécificité de ces professionnels-là, c'est des professionnels qui ont fait des formations et qui sont qualifiés. Donc, ils ont subi plusieurs jours de formation, ils ont monté un dossier administratif et ils sont qualifiés, reconnus garants de l'environnement. C'est bien pour vous, les particuliers, parce que ça vous assure déjà que le professionnel, il est assuré. Donc, pas de souci. Il est assuré au niveau décennal, responsabilité civile. Faire appel à un professionnel RGE, c'est s'assurer que son professionnel a toutes les assurances nécessaires. Et aussi, dans le cadre du RGE, les professionnels sont audités. Donc, ils ont des chantiers où ils sont inspectés pour s'assurer qu'ils font bien les travaux. Donc, c'est une garantie que vous ferez appel à des professionnels de confiance qui connaissent leur métier, qui sauront vous orienter, qui sont compétents dans le système de rénovation qu'ils vous proposent. Et au final, vous pouvez trouver la liste des professionnels RGE sur le site www.rénovation-info-service.gouv.fr. Il y a un petit onglet « Trouver un professionnel RGE ». Et là, vous avez toute la liste des professionnels RGE sur le département de la Lozère.
Au niveau des artisans lozériens, il y en a beaucoup qui sont RGE. Quelle est la proportion à peu près ?
Alors, beaucoup sont en démarche. Et ne sont pas tous RGE aujourd'hui, mais en tout cas, nous, on a formé plus de 100 artisans depuis le début de l'année pour justement avoir les compétences pour être RGE. On a des dossiers qui sont en finalisation là en ce moment, puisque nous, on les accompagne pour les former, pour les aider à monter le dossier administratif. Et donc après, il y a des commissions, ça prend un peu de temps. Les obligations RGE, c'est pour l'éco-prêt à taux zéro, c'est depuis le 1er septembre. Il faut faire appel à un professionnel RGE dans le cadre de son éco-prêt à taux zéro depuis le 1er septembre. Et pour les autres aides, c'est à partir du 1er janvier 2015. Donc il en reste encore quelques mois. Donc là, toutes les semaines, ça change. Et si on va sur le site, il y en a des nouveaux qui apparaissent toutes les semaines.
Également, il ne faut pas que les particuliers hésitent à venir vous voir parce que vous pouvez donc les guider vers ces professionnels. Et également, il y a des artisans lozériens qui construisent avec des matériaux sains, des matériaux bio, de nouveaux matériaux enfin, qui existaient avant et qu'on a oubliés. On l'a vu durant la semaine de bioressources. Ça, vous pouvez aider les personnes qui recherchent ces artisans-là.
Tout à fait. La particularité de la CAPEB, c'est de travailler énormément sur les matériaux biosourcés et de former, d'accompagner les professionnels pour s'orienter vers ces matériaux sains. Et du coup, on a toute une palette d'artisans plutôt compétents là-dedans et qui travaillent beaucoup sur notamment ce qui est le chanvre, la terre crue, ces matériaux un peu oubliés qui reviennent à la mode. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On vous orientera vers les professionnels en question. Et on a un site internet dédié à ça, mais on a aussi notre adresse mail où si on fait construction-durable@capeb48.fr, on aura directement les professionnels en question.
Voilà, on va finir par faire un tour de table, que vous rappeliez un peu où vous êtes situé, où on peut vous joindre finalement. Donc la CAPEB, c'est sur le COS, on monte, c'est la maison des artisans. Votre site internet uniquement de la CAPEB, c'est
http://48.capeb.fr. Et donc on se trouve sur le COS Doge, et la maison des artisans est une maison témoin que tout le monde peut visiter, donc n'hésitez pas à monter sur le COS Doge.
Très bien. Le CAUE, Nathalie, qui veut dire ?
Conseil architecture, urbanisme et environnement. Donc, Caroline Ramprec, architecte au conseil. Où est-ce qu'on peut vous trouver ?
Alors, on vient tout juste de déménager. On est encore dans les cartons. Vous nous trouverez rue du Gévaudan, donc un peu sur les hauteurs de Mende. Donc, vous nous téléphonez, vous prenez rendez-vous. On fait aussi des permanences sur rendez-vous. Vous pourrez trouver les dates sur le site internet du CAUE, caue-lozère.fr.
Merci.
D'accord. Héloïse Coste part dans une demi-heure à Marvejols. On peut vous trouver.
Je dois être dans une demi-heure à Marvejols. Sinon, Amande, donc tous les jours, avec ou sans rendez-vous, on est dans l'immeuble Foch, au 12 bis avenue Foch. Et notre site internet, le www.adil48.org.
Merci. Et donc ensuite, Habitat et Développement Lozère avec Gauthier Lacanal.
Alors, toute personne peut venir nous rencontrer quotidiennement, du lundi au vendredi, sauf le vendredi après-midi. Nous sommes 10 boulevard Lucien Arnault, donc un peu après le cinéma, sur le boulevard Amande. Et nous tenons également des permanences sur l'ensemble du territoire. Donc là aussi, le mieux, c'est de venir voir leurs dates sur notre site, donc www.hd-aveyron-lozère.fr.
Voilà, et merci. On peut retrouver vos permanences également dans nos informations locales, tout comme celle de la DIL. Lozère Énergie.
Oui, Lozère Énergie.
Pas très loin.
D'Habitat et Développement, boulevard Lucien Arnault, juste avant le cinéma, le bâtiment vraiment qui est juste avant. Donc nous, c'est aussi toute la semaine, avec ou sans rendez-vous. Et je dois aussi être avec la DIL d'un demi-heure à Marvejol. Voilà, donc vous trouverez les permanences aussi sur notre site.
Très bien. Bruno Portal, merci de cette belle initiative de rassembler tous ces acteurs. Donc, on va rappeler cette conférence.
Voilà. Mais je dois aussi préciser que les bureaux de la MAIF sont ouverts tous les jours, qu'on peut assurer votre logement et même proposer des prix immobiliers. Sinon, je pense que les auditeurs ont pris la mesure donc des compétences et du professionnalisme des intervenants qui seront présents jeudi soir. Voilà, je crois qu'on a eu un bel aperçu. La conférence en elle-même durera une heure et quart maximum. Et je tiens donc quand même à préciser qu'à l'issue de cette conférence, il y aura une présence de stand de tous les partenaires, avec bien sûr un verre de l'amitié, un petit buffet qui pourra donc agrémenter l'échange que vous pourrez avoir avec donc tous les organismes présents à la conférence.
Donc, merci. Conférence suivie d'un échange convivial avec les professionnels.
Tout à fait.
Voilà.
Voilà. Voilà, ce jeudi à 18h, n'hésitez pas à vous y rendre. Merci à toutes et à tous d'être venus à cette émission. On espère qu'on aura éclairé un peu le public qui veut construire ou qui veut rénover. Cette émission est bien sûr podcastable sur notre site 48fm.org. Allez, on se quitte comme chaque mardi avec l'agenda culturel de la semaine. Ciao, ciao.
À bientôt.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48FM.
Agenda culturel du lundi 7 octobre au lundi 13. Bonjour Nicolas.
Salut Marie.
Ce soir, à l'Espace des Anges, du théâtre avec Tremblement de Terre. Rencontre avec Serge Lacan de la compagnie 1, 2, 3 Soleil et une actrice du spectacle.
Bonjour. Tremblement de Terre est un spectacle que nous avons créé à partir d'un collectage de témoignages de personnes en situation de handicap. Handicap de toutes sortes, physique, psychique, et qui tournait beaucoup autour de la condition du handicapé dans le travail. Et puis nous avons développé ce sujet pour travailler sur d'autres sujets, parler de la vie affective, du regard de la société sur le handicapé, du regard du handicapé sur la société, sur les valides. On traite de la vie affective, on traite de la sexualité. Et l'approche artistique de ce spectacle est une approche qui est basée beaucoup sur le travail que peut faire la compagnie, c'est-à-dire un travail autour du clown et un travail sur le corps. La spécificité aussi de ce spectacle, c'est que, outre le fait qu'il y ait beaucoup de comédiens sur scène, il y a 20 comédiens sur scène. Donc ces 20 comédiens, il y a des comédiens professionnels, il y a des comédiens qui font partie des ateliers de la compagnie, 1, 2, 3 Soleil, et il y a aussi des comédiens qui sont en situation de handicap, qui font aussi du théâtre avec la compagnie. Voilà. À part les comédiens, l'autre spécificité de ce spectacle, c'est la présence sur scène de 3 musiciens. Comme on dit chez les Américains, n'est-ce pas? Puis ça fait moderne. Nous avons la musique en live sur scène. Voilà. C'est un spectacle de théâtre, c'est un spectacle de clown, c'est un spectacle qui fait rire. Les handicapés rient d'eux-mêmes, les valides rient des handicapés, les handicapés rient des valides aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de situations qui sont jouées et retransmises, qui sont du côté du drame que peut être le handicap ou la maladie qui met en situation de handicap la personne. D'où le titre de ce spectacle, Tremblement de Terre. Dans les témoignages que j'ai pu recueillir, ce mot-là est revenu très souvent. Pour beaucoup de gens, la maladie qui leur tombe sur la figure est un tremblement de terre. Pour eux, pour leur vie familiale, pour la vie professionnelle qui s'arrête, etc., etc. Et ce spectacle, et c'est hyper important pour moi de dire ça, ce spectacle vient interroger le politique au sens large du terme sur quel regard porte la société sur la personne différente, handicapée, mais on peut aller beaucoup plus loin, et par les temps qui courent, il y a beaucoup de phénomènes dans notre société qui viennent interroger ça. Quelle place je laisse à l'autre différent, quelle place je lui permets de vivre et de poursuivre. Voilà. Donc ce spectacle est vraiment intéressant aussi de la façon dont il a été construit. La construction de ce spectacle s'est faite à partir du collectage des témoignages, mais aussi à partir de l'échange qu'il pouvait y avoir entre les comédiens valides, les comédiens professionnels et les comédiens amateurs. Et je terminerai là-dessus. Pour moi, c'est une de mes revendications dans mon engagement théâtral, c'est de permettre à tout le monde d'être sur une scène. La scène comme espace de parole, la scène comme espace où j'existe et où je peux dire des choses et où on peut m'écouter.
Je suis déjà passée à la radio, que pour mon imbago.
Voilà, ce sera ce soir à 20h30 pour un tarif de 12 euros et de 8 euros. C'est un spectacle tout public à partir de 8 ans et c'est proposé par la compagnie 1, 2, 3 Soleil. Alors, le mercredi 8 octobre, du cinéma à la Jeunette Verte avec le film The Homeless Man. En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary B. Cuddy, une pionnière forte et indépendante originaire du Nebraska. Sur sa route vers l'Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elles croisent le chemin de George Bridge, un rustre vagabond qu'elles sauvent d'une mort imminente. Ils décident de s'associer afin de faire face, ensemble, à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues de la frontière. C'est un film qui aura lieu à 21h. Et alors attention, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. C'est une séance proposée par Cinéco.
Le jeudi 9 octobre, donc au Ciné-Théâtre de Saint-Chély, un documentaire cinéma, Entre les bras, donc résistance naturelle. En 2009, Michel Bras, à la tête d'un des meilleurs restaurants au monde, 3 étoiles et 19,5 sur 20 quand même, une très bonne note, décide de passer la main à son fils Sébastien. Un père et son fils, tous les deux à un moment crucial de leur carrière. Est-il possible de transmettre l'œuvre d'une vie? C'est la question qui est posée dans ce film. Est-il si facile pour un fils de se faire un prénom, ou même un nom? Ce film est à la fois un magnifique hommage à l'un des plus grands chefs de France et une belle réflexion sur la transmission d'un savoir-faire, d'un savoir-être, d'un héritage. C'est un film plutôt qui aura lieu donc à 20h30 avec des tarifs de 6,80€, 5,80€, 4€ pour le tarif réduit. Et c'est au Ciné-Théâtre.
Jeudi, toujours au café associatif La Girafe Ronde, de la musique avec le Skeleton Band. Donc c'est un groupe qui joue une musique aux sonorités foisonnantes qui s'amuse à désosser les genres musicaux à l'aide de nombreux instruments et casseroles. Chaque chanson est un conte, un film où déambulent d'étranges personnages. Sur scène, le groupe malmène son univers, il s'énerve et se déglingue. Ce sera à 21h, entrée libre aux adhérents, c'est un spectacle tout public et c'est proposé par l'association La Girafe Ronde.
À Florac, donc le samedi 11 octobre, on a beaucoup de choses le samedi 11 octobre, Marie.
Oui.
Et on démarre avec les internationales de la musique. Donc bien sûr, comme le nom l'indique, c'est de la musique. À 14h, donc ce samedi 11 octobre, de 14 à 15h30, vous aurez des ateliers musicaux de composition d'une chanson avec Sophie Boudieu. Pour les enfants entre 8 et 10 ans, c'est une participation gratuite. Le nombre de places est limité, donc il faudra vous inscrire au 04 66 45 23 60, le numéro de la Jeunette Verte. La cave du 25, donc à 14h, on aura la projection du film Si t'as chante le blues de Dina Valley de 2008 par l'association La Nouvelle Dimension, le Ciné-Club de Florac et la 4ème Dimension. Délicieuse tragicomédie musicale animée où Hollywood percute les années folles.
Bollywood
mm-hmm. percute les années folles, c'est oui. ça. D'accord. Adaptation donc malicieuse d'une célèbre épopée de la mythologie indienne, tout public, gratuit. À 15h30, session blues ouverte à tous en partenariat avec l'association Hardy Lézard. Et ensuite à 17h, rencontre avec Jordan Officer. Il viendra à la rencontre des musiciens amateurs ou confirmés pour partager ses expériences et quelques notes de musique. Tout ça, c'est toute la journée, donc à partir de 14h, bien sûr. Hein, et c'est organisé par la Jeunette Verte.
Voilà, et samedi soir, toujours donc proposé par la Jeunette Verte et donc à la salle de la Jeunette Verte, de la musique avec I'm Free, avec de Jordan Officer, donc c'est maître de l'espace sonore. Il est un musicien et un créateur hors du commun. Reconnu pour son approche aussi entre puissance et une subtilité, le guitariste est de ceux qui savent vous transporter. Entre ses mains, le blues, le jazz et la country se fondent à un langage éminent, singulier et personnel. Cet alchimiste du swing s'est affirmé au cours de la dernière décennie comme l'un des formidables artisans de la note bleue. Donc ce sera toujours dans le cadre des internationales de la guitare. C'est à 20h30 pour un tarif de 15€ et de 12€ et c'est à partir de 8 ans.
Ce samedi 11 octobre, toujours aussi, donc à Marvejol, sur notre partie de notre territoire, un bal folk à 20h30, atelier danse pour tous, danse traditionnelle à 21h30, début du bal. Première partie donc Aligoton et le groupe principal est Solomalé. Voilà, partenariat avec l'association du bal du mois. C'est à 20h30, 6€ et gratuit pour les moins de 12 ans. C'est ouvert bien sûr au tout public et c'est organisé par l'association Tranouga.
Au théâtre demande de la musique avec La Belle Hélène par le Chœur de Lozère. C'est une opérette de Jacques Offenbach. Donc ça se passe à Sparte. Hélène, épouse du roi Ménélas, apprend que Vénus a promis à un berger l'amour de la plus belle femme du monde. Or, ce berger n'est autre que Paris et la plus belle femme du monde n'est autre qu'Hélène. Quiproquo, mensonge, rebondissement, l'intrigue se déroule sur une musique spirituelle et entraînante. Ce sera à 21h pour un tarif de 15€ et c'est gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. C'est un spectacle tout public proposé par l'association Le Chœur de Lozère. Samedi, toujours à la salle polyvalente de Langogne, de la musique, avec un concert d'Eskelina et Liorchouv, rencontre avec Olivier Hall qui nous présente le spectacle.
Oui, une soirée chanson française aux accents d'ailleurs. On va voyager jusqu'en Suède et en Israël avec Eskelina, franco-suédoise. Des textes écrits par Florent Ventrien de la Rue Quétanou. Deux musiciens avec elle, une contrebassiste, Nolwenn Lesour, et Christophe Bastien de Debout sur le Zinc qui a composé la musique et qui l'accompagne. Vraiment une artiste à découvrir sur scène. On pourra la voir au mois de janvier à l'Olympia, salle mythique parisienne. Et sur la fin de soirée, vous pourrez voir un phénomène de la chanson, Liorchouv, franco-israélienne, seule sur scène, mais elle a vraiment besoin de personne pour l'accompagner. Après des passages remarqués aux Francofolies de La Rochelle, elle sera à Langogne. C'est vraiment à voir, elle vient de l'art de rue, c'est quelqu'un qui provoque vraiment des choses. Vous ne sortirez pas du concert indemne.
Alors ce sera à 21h pour un tarif de 12€ et de 6€. C'est un concert tout public et c'est proposé par les Fadarelles et la ville de Langogne. Bonne semaine culturelle à tous.
Bonne semaine.